Et nous sommes le 13 janvier 2022. Tout de suite, les titres de votre journal présentés par Christine Roth.
Bonjour Benny, bonjour à tous. Jean-Christophe Bouissou l'a annoncé hier, 3 nouvelles compagnies aériennes veulent desservir les îles. Nous parlerons ensuite de la procédure accélérée pour le pass sanitaire ainsi que du pass vaccinal qui n'a toujours pas été adopté à Paris. Enfin, nous découvrirons les conséquences des intempéries sur les îles de la société.
Et puis, 3 nouvelles compagnies aériennes veulent desservir les îles.
L'ouverture à la concurrence sur les transports aériens inter-îles aiguise les appétits. Ce sont à présent 3 compagnies en cours de création qui s'alignent pour faire concurrence à Air Tahiti, Air Motulink, Natireva et Air Bora Bora, qui vient de déposer son dossier la semaine dernière. C'est ce qu'ont annoncé hier le ministre en charge Jean-Christophe Bouissou et le directeur de l'aviation civile polynésienne Georges Puchon. Ce dernier explique que le pays doit maintenant mettre en balance la baisse des tarifs et l'augmentation des fréquences demandées par la population, ainsi que la pérennité des nouveaux entrants.
Nous n'attendions pas à avoir autant de demandes en si peu de temps. C'est un sujet qui est délicat parce que nous sommes sur 2 plans. Au niveau de notre service instructeur, nous traitons le sujet sur le plan des textes qui autorisent l'ouverture de la desserte aérienne interinsulaire. Mais par ailleurs, c'est aussi voir dans quelle mesure nous pouvons assurer une pérennité de l'offre de transport à la population sans que cette dernière ait à subir des à-coups, des entreprises privées.
C'est clairement Bora Bora qui éveille les convoitises. Les liaisons hebdomadaires passeraient de 52 aujourd'hui, effectuées par Air Tahiti, à 122. Motulink et Air Bora Bora se positionnent sur les destinations de libre concurrence, mais Natireva a également l'œil sur certaines des 32 destinations d'obligation de service public, aux Tuamotu et aux Austral, sur lesquelles Air Tahiti détient en théorie le monopole pour 5 ans. Le pays souhaite qu'Air Tahiti et Natireva parviennent à un accord, mais dans le cas contraire, ils pourraient intervenir pour modifier le contrat de délégation de services publics d'Air Tahiti. Les tarifs prévisionnels alléchants présentés par les nouvelles compagnies ne sont toutefois pas à prendre pour argent comptant, tempère le ministre. Il faudra aussi que ces nouveaux acteurs et Air Tahiti trouvent comment partager les installations aéroportuaires qui ne sont pas extensibles.
Alors, petit souci encore avec le son, mais on va essayer de nous le retrouver ce son. Attendez, hop là, il est là. Et malheureusement, j'ai l'impression
que
ça ne marchera pas.
C'est également un de nos soucis pour le traitement des escales, puisque nous avons jusqu'ici une aérogare taillée pour une compagnie. Maintenant, s'il y a 2 compagnies, 3 compagnies, il va falloir qu'on raisonne différemment, parce qu'on ne peut pas faire des extensions d'aérogare et de tarmac à souhait, et les délais aussi qui seraient demandés. Donc il nous faudra d'ici là avoir une discussion avec l'ensemble des transporteurs aériens qui viennent sur nos aérodromes de façon à maintenant gérer, comme dans les aéroports internationaux, sous forme de slot horaire et avoir des parties communes en gestion des escales.
Jean-Christophe Bouissou a de nouveau souligné que Air Tahiti doit réfléchir à comment s'adapter à la concurrence. L'article complet de Caroline Perdry est à retrouver sur radio1.pf.
Au Parlement à Paris, le pass vaccinal toujours pas adopté.
Le Sénat a apporté mercredi plusieurs modifications au texte, comme son application seulement au-delà de 10 000 patients à l'hôpital. Les sénateurs veulent aussi que le pass vaccinal ne s'applique pas aux moins de 18 ans et que les restaurateurs n'aient pas à vérifier l'identité des personnes qui le présentent. Les débats, selon le sénateur Tevaro Fritsch, sont largement colorés par la campagne présidentielle.
Il y a beaucoup de débats qui, à mon sens, sortent du cadre, mais qui sont un peu pollués par l'ambiance de campagne électorale présidentielle, qui ne dit pas son nom, mais qui clairement s'exprime dans l'hémicycle. On voit bien qu'il y a des clivages gauche-droite, une volonté aussi de tirer sur le gouvernement, alors que dans les couloirs, tout le monde reconnaît tout de même qu'il n'y a pas beaucoup d'autres solutions aujourd'hui, compte tenu de ces vagues mondiales d'épidémie. On sent bien qu'on est en pré-campagne électorale pour les présidentielles et que ça fausse parfois les débats.
Ce jeudi, la commission paritaire mixte qui réunit des députés et des sénateurs n'est pas parvenue à harmoniser les textes votés par chacune des chambres. C'est l'Assemblée qui aura le dernier mot, probablement durant le week-end ou en début de semaine. Le gouvernement espère une entrée en vigueur du pass vaccinal autour du 20 janvier, sous réserve d'éventuels recours devant le Conseil constitutionnel.
Enfin, une procédure accélérée pour les passes sanitaires.
Oui, car si 100 000 certificats de vaccination ont déjà été délivrés, beaucoup se sont retrouvés coincés dans les embouteillages de l'administration. Des demandes de QR code datant de décembre sont toujours en attente de traitement. La démarche automatisée est maintenant pleinement opérationnelle. Les personnes bénéficiant d'un schéma vaccinal complet ou ayant fait leur troisième dose pourront 24 à 72 heures après l'injection télécharger automatiquement leur passe sanitaire sur mes-doc.gov.pr. Après identification à Tatao, le e-service de la CPS. Les mairies continueront toutefois d'accueillir ceux qui préfèrent faire leur démarche à un guichet physique. Certains vaccinodromes, comme celui de la présidence, délivrent les QR codes directement après l'injection. A noter aussi que le 15 janvier approche, date à laquelle les personnes de plus de 18 ans ayant fait leurs deux premières doses avant le 15 juin doivent avoir fait leur dose de rappel pour bénéficier d'un pass sanitaire valide. On sait que seuls 25% des majeurs polynésiens ont reçu cette troisième dose, mais le pays reste flou sur le nombre de passes sanitaires qui vont être désactivées samedi.
Et il y a de plus en plus de cas d'Omicron.
C'est le constat de la plateforme Covid. 374 cas recensés la semaine dernière et pas moins de 241 de plus depuis lundi. La circulation du virus, y compris son variant Omicron, qui représenterait 95% des contaminations, est désormais avérée dans la population. Mais pour l'instant, pas d'explosion comme celle qu'a connue la métropole. L'épidémiologiste de la plateforme Covid, Henri-Pierre Mallet, reste néanmoins prudent. Pour lui, de nombreux cas ne sont pas déclarés du fait de l'absence de symptômes. On constate en outre que la propagation concerne toute la population et non pas juste des clusters. Les experts de la plateforme Covid appellent encore une fois à la vigilance et au respect des gestes barrières, mais les règles sanitaires, elles, ne sont pas renforcées. Le pays a simplement émis de nouvelles recommandations. 7 jours d'isolement seulement pour les vaccinés Covid+, pas de quarantaine pour les sujets contacts vaccinés, pas de changement de protocole dans les écoles. Il faut dire que la situation à l'hôpital n'a rien d'inquiétante. 3 patients hospitalisés en filière Covid hors réanimation. En outre, les données sur les vagues d'Omicron en Afrique du Sud ou en Angleterre ont de quoi rassurer. Aucune raison donc d'être aussi strict avec ce variant qu'avec Delta, explique le docteur Malheb, pour qui d'autres mesures, y compris à l'aéroport, pourraient être relâchées.
Et on doit se remettre en question en permanence, c'est assez compliqué. Donc effectivement, on va toujours essayer d'être le plus prudent possible tant qu'on n'a pas suffisamment de connaissances. Aujourd'hui, les mesures qu'on applique, elles sont bien pour freiner la diffusion du virus, quoi qu'il en soit. Car quelle que soit sa dangerosité, il y a toujours un risque de surcharge de l'offre de soins. On parle de l'hôpital, ça sera peut-être moins, mais ça peut être aussi l'offre de soins libérale. Donc l'attention reste absolument de mise, même si clairement l'Omicron donne spontanément moins de formes graves en proportion.
Tous les détails sont également sur radio1.pf.
Et puis les îles de la Société touchées par de violents intempéries.
Elles avaient été annoncées hier par Météo France qui a placé les îles du Vent et les îles sous le vent en vigilance orange. Pas de cyclone ou même de dépression forte, mais un phénomène de haute intensité qui touche tout particulièrement la côte est de Tahiti et Moorea. Les prévisionnistes s'attendent à des rafales de vent atteignant les 100 km/h, une mer très agitée avec des crocs de 3 mètres et surtout de fortes pluies qui ont commencé dès hier soir à Tahiti. Le tout devrait durer au moins jusqu'à samedi matin. Ces épisodes sont classiques en saison des pluies, mais le Haut Commissariat a préféré réunir ce matin le PCHC pour faire le point de la situation. L'occasion de rappeler les consignes de vigilance, on écoute le directeur de cabinet du Haut Commissariat, Cédric Bouet.
Je crois que d'abord, la responsabilité individuelle doit évidemment, et le bon sens doivent prévaloir de ce genre de situation. Tout le monde est habitué aux fortes pluies, maintenant il faut veiller à ne limiter ces déplacements qu'aux seuls déplacements qui sont strictement nécessaires. Il faut s'assurer que lorsque l'on a des fossés, des curages, des gouttières qui sont à proximité de son domicile, s'assurer qu'ils ne sont pas encombrés. Il est bien sûr tout à fait raisonnable de limiter les activités en extérieur, je pense aux activités récréatives, que ce soit en pleine nature, en montagne ou en mer. Et nous allons d'ailleurs interdire dans la journée les activités nautiques de plaisance et d'agrément pendant le temps de cette vigilance météo.
Et plusieurs incidents sont à signaler ce matin. Route inondée à la Papeno, arbres effondrés sur la chaussée à Mahina, ralentissement dû à des coulées de boue, des chutes de pierres ou des crues à Taravao. Bien sûr, du côté des autorités, on appelle à la prudence sur les routes, mais aussi à signaler les axes encombrés pour permettre aux services spécialisés d'intervenir.
Ça nécessite que l'ensemble des services soient informés, évidemment, le plus tôt possible des désagréments qui sont observés, puissent intervenir. Les services, ce sont les services des municipalités avec les moyens qui sont les leurs, ce sont les sapeurs-pompiers, des victimes, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui depuis le début du phénomène. Ce sont les services de gendarmerie pour opérer la régulation avec les mouteuils le cas échéant. Et puis, dans les cas les plus importants, c'est aussi les services du pays qui étaient avec nous ce matin en réunion au PCHC du Haut-Commissariat, peuvent aussi mobiliser des entreprises spécialisées pour drainer, pour déblayer lorsque cela s'avérerait nécessaire.
Voilà à noter aussi parmi les consignes de vigilance, celle de se tenir informé de la situation. Vous pouvez le faire sur le site de Météo France, mais aussi sur Radio 1 et sur notre site internet radio1.pf.
Et des entrepreneurs en colère après la suppression d'une taxe, c'est nouveau.
Pourtant, le projet de loi fiscale du pays partait d'un bon sentiment. En proposant la suppression de la fiscalité à l'exportation sur le monoï, l'idée était de renforcer la compétitivité polynésienne. Mais les professionnels du secteur ne le voient pas d'un bon œil. Ils regrettent de ne pas avoir été consultés et surtout qu'on ait fait croire dans le texte qu'il avait été. La suppression de cette taxe parafiscale instaurée en 1992 et qui finançait la recherche et le développement ainsi que des actions de promotion déstabilise la filière monoï après 2 années de crise sanitaire difficile, affirme Olivier Touboul, gérant du laboratoire de cosmétologie du Pacifique Sud. En réponse, l'association Monoï de Tahiti a décidé de mettre en place une contribution volontaire qui permettra de poursuivre la stratégie de développement et de valorisation de la filière. Les professionnels doivent rencontrer des membres du ministre de l'économie aujourd'hui à 14h. C'est la fin de ce journal. Merci beaucoup de l'avoir suivi. On passe à l'écoute de votre répondeur sur Radio 1 et Thierry FM.